Vous écoutez, on lit pour vous.
La fin de l'Empire des cœurs. Un texte de Rainer Ricardo, qui est chercheur en relations internationales et spécialiste des relations Nord-Sud et des émotions en relations internationales. Son texte est publié dans Le Devoir du 21 avril 2026. En sous-titre, les États-Unis ne sont plus un modèle à suivre, mais une force à laquelle il faut s'adapter ou se plier. Depuis plus d'un siècle, les États-Unis se sont pensés et présentés comme un empire d'un genre particulier. Pas un empire de la contrainte brute, mais un empire d'amour et des cœurs, fondé sur l'attraction, l'adhésion et une certaine idée de la bienveillance. Cette image n'a jamais été parfaitement fidèle à la réalité. Les États-Unis ont bombardé des pays, renversé des gouvernements et soutenu des régimes autoritaires. Mais le langage de la promesse du progrès, de la démocratie et de la modernité jouait un rôle essentiel. Il rendait la puissance américaine acceptable, parfois même désirable. Pour une grande partie du monde, les États-Unis représentaient un horizon imparfait, mais tout de même un horizon. Donald Trump est en train de rompre avec cette tradition. Quiconque a écouté ses discours l'a constaté. Dans sa bouche, le langage ne sert plus à décrire la réalité, il sert à la produire. Les États-Unis seraient incomparables, ses actions relèveraient du « jamais vu ». À l'inverse, ses adversaires sont horribles, incompétents, lunatiques. Le monde est réduit à une opposition morale élémentaire, grandeur d'un côté, monstruosité de l'autre. Mais ce qui frappe, ce n'est pas le ton de son propos, c'est sa cohérence. De l'Iran au Venezuela, de Cuba à l'Ukraine et jusqu'à ses propres alliés, un même registre s'impose. La menace, la pression, la démonstration de force. Les relations internationales ne sont plus structurées par la recherche d'adhésion. Elles le sont par l'affirmation d'un rapport de domination. Ce basculement est plus profond qu'un simple changement de style, car un empire, quel qu'il soit, repose sur des rapports de domination. Ce qui le distingue, ce n'est pas l'absence de contrainte, mais la manière dont cette contrainte est ressentie. Pendant longtemps, le langage américain suscitait l'adhésion, l'admiration, l'espoir et un sentiment d'appartenance. Il rendait l'hégémonie américaine tolérable. Le langage de Trump produit autre chose, voire un climat de peur, de défiance et de soumission calculée. Les États-Unis n'y apparaissent plus comme un modèle à suivre, mais comme une force à laquelle il faut s'adapter ou se plier. En ce sens, Trump ne fait pas qu'inventer un nouveau pays. Il en révèle une dimension plus brute, une dimension qui a toujours existé, mais qui était jusqu'ici partiellement couverte par un langage de légitimation. Il ne change pas le fond, il retire le vernis. Or, ce vernis avait une fonction politique réelle, car la paix internationale ne repose pas uniquement sur des rapports de force. Elle suppose une capacité minimale de reconnaissance mutuelle, ainsi que l'idée que l'autre demeure, malgré le conflit, un interlocuteur. Mais quand la parole cesse d'être un instrument de coopération pour devenir une arme de soumission, c'est cette capacité-là qui s'effondre. Aujourd'hui, deux réponses sont possibles. La première consiste à s'adapter, à accepter les nouvelles règles, à normaliser le rapport de force et à renoncer à la légitimité comme monnaie d'échange. C'est une réponse compréhensible, mais c'est aussi une capitulation tranquille devant l'idée que le monde ne peut être gouverné que par la peur et la force. La seconde consiste à tenir, non par fidélité aux États-Unis, mais par fidélité à ce que l'idée d'un empire des cœurs contenait de juste, indépendamment de celui qui prétendait l'incarner. Les démocraties moyennes qui ont construit leur influence sur la crédibilité de leurs paroles plutôt que sur la taille de leurs arsenaux savent cela. Le Canada, les pays nordiques et certains États du Sud global engagés dans le multilatéralisme ont tous intérêt à ce que le droit international et les institutions internationales comptent encore dans les affaires du monde. L'ordre international qui vacille n'est pas parfait, mais ce qui pourrait lui succéder, un monde où seule la force parle, l'est encore moins. Certes, l'Empire des cœurs survivra à Donald Trump, mais il dépendra de ceux qui refusent de réduire le monde à un simple rapport de force. Fin de La fin de l'Empire des cœurs, un texte signé Rainer Ricardo, publié dans Le Devoir du 21 avril 2026.
Le signal de la première phase enfin donné. Un texte de Vincent Larrain, paru le 4 mai 2026 dans la presse. Après avoir longtemps piétiné, le projet du futur quartier Namur Hippodrome, l'un des plus importants projets immobiliers du pays, se met finalement au trot. La construction de 2400 logements devrait s'amorcer sur le site au printemps 2027, dans le secteur le plus près de l'autoroute d'Écari, où les premiers résidents devraient emménager en 2029. Le directeur du projet, l'architecte et urbaniste Clément Demer, ancien DG de la Société Quartier International de Montréal, et le coprésident du GALOPH, l'OBNL responsable, ont fait état des derniers développements dans le dossier lundi au Forum stratégique sur les grands projets. À terme, le site où sont projetés 20 000 logements accueillera des écoles primaires et secondaires, des commerces de proximité et des services de santé, ont-ils détaillé face à un parterre de gens d'affaires. On est à quelques minutes de marche d'une station de métro, pas la plus achalandée du réseau, donc le potentiel est énorme, a souligné Clément Demer, faisant référence à la station Namur, sur la branche ouest de la ligne orange. D'ici là, l'inauguration des logements de la première phase, qui devrait accueillir de 6 000 à 8 000 personnes, sera accompagnée de l'aménagement de 3 parcs. Les stationnements en surface s'y feront rares, souligne l'architecte Clément Demer. Le site sera donc particulièrement invitant pour les citoyens tournés vers le transport en commun et actifs dans un contexte où il n'a jamais été aussi cher de posséder une voiture, ajoute-t-il. La première phase devrait être complétée d'ici 2031, estime Clément Demer. Entre-temps, les infrastructures, dont l'aqueduc, devraient être construites sur le site de la deuxième phase. Logements sociaux et communautaires. La gouvernance innovante de ce projet permet d'importants bénéfices, a détaillé Clément Demer. D'abord, c'est au terme de discussions avec des représentants de la communauté de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, CDN-NDG, arrondissement dans lequel se trouve le terrain, qu'ont été établis les barèmes de logements sociaux et communautaires du site. En vertu de ceci, la moitié des 10 000 logements hors marché que doit accueillir la partie ouest du site seront destinés aux ménages des deux premiers quintiles de revenus, soit 54% des ménages de CDN-NDG. Les logements abordables compris dans la première phase du projet seront, quant à eux, destinés au troisième quintile de revenus. Qu'est-ce qu'un logement hors marché ? Les logements dits hors marché sont tous les logements locatifs détenus par une entité à but non lucratif qui ne vise pas à réaliser des profits, comme des OBNL ou des coopératives. La ville de Montréal inclut également dans sa définition les propriétés qui restent abordables à long terme grâce à un contrôle du prix de revente. GALOPH parie également sur la mutualisation d'espaces communs, comme les stationnements, en regroupant les immeubles à développer dans des portefeuilles plutôt que par lot, insiste Clément Demer. Le coût de développement devrait s'en trouver considérablement réduit. Cette approche permet également d'employer des méthodes de production à grande échelle qui permettront de réduire les délais de construction et, encore une fois, les coûts, souligne l'architecte. Clément Demer cite notamment le recours à des murs rideaux, dont sont conçus plusieurs immeubles du centre-ville, mais également à des cuisines et des salles de bain préfabriquées à l'extérieur du site. Un chantier de construction, c'est à ciel ouvert. Il pleut, il fait froid, il y a toujours des conditions qui font que ce n'est pas parfaitement performant, alors que tout ce qui est fait en usine, le contrôle de la qualité, c'est numéro un, dit-il. Parmi les nombreux projets immobiliers en branle à Montréal, celui du quartier Namur Hippodrome est le plus transformateur, a estimé lundi la présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Isabelle Dessureau. Le temps presse à Québec. Reste à voir si ce départ se concrétisera bel et bien, le projet ayant été victime de plusieurs reports, lui qui est discuté depuis une quinzaine d'années à Montréal. Ce lancement est d'ailleurs tributaire de l'adoption à l'Assemblée nationale d'un projet de loi pour modifier la charte de Montréal afin que les terrains soient officiellement confiés à GALOPH et que ceux-ci soient exemptés de taxes foncières. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a d'ailleurs profité de sa rencontre avec la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, pour lui faire part de son inquiétude quant à l'adoption de cette pièce législative, rapportait Le Devoir. Étant donné que la session parlementaire qui s'ouvre mardi à Québec sera écourtée en raison de la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec, le temps presse. Mais Clément Demers se dit confiant. Ça a été la même chose pour le quartier international, souligne-t-il. Le président et chef de la direction de Claridge, Pierre Boivin, indique quant à lui que le financement de la première phase est déjà sécurisé et se montre confiant pour les phases subséquentes. C'était le signal de la première phase enfin donné, un texte de Vincent Larrain, paru le 4 mai 2026 dans la presse.
Pourquoi le hockey compte-t-il encore? Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 27 avril 2026 dans Le Devoir. Au temps des séries, quelque chose recommence ici dans la vie commune, avec la régularité des saisons, tel un phénomène quasi naturel. On se rassemble autour d'un rituel dont la signification s'est brouillée avec le temps, mais qui continue de nous toucher. Le hockey possède cette force singulière de survivre à la disparition de plusieurs des réalités qui, jadis, lui donnaient sens. Il suffit que les Canadiens se qualifient pour les éliminatoires pour que reviennent les mêmes réflexes. On parle aux inconnus dans la rue dès lors qu'il est question de hockey. On scrute les alignements. On s'énerve après un avantage numérique raté ou à la suite d'un beau tir dévié de justesse. Pendant quelques semaines, la conversation collective trouve un point de gravité commun. Ce n'est pas rien dans une société où la division prospère, nourrie par une vie politique plus portée à exciter les passions qu'à servir l'intérêt commun. C'est peut-être pour cela que je repense souvent, à pareille période de l'année, à l'un des textes les plus célèbres d'André Laurendeau, écrit lorsque Maurice Richard fut écarté des séries. En 1955, Laurendeau est rédacteur en chef du Devoir. Homme de culture et d'inquiétude, attentif aux secousses de son époque, il comprend d'instinct qu'au moment de la suspension de Maurice Richard, gronde davantage qu'une simple colère de supporteur. Lors de l'émeute du Forum, déclenchée par cette suspension, Laurendeau y voit la reprise d'un vieux récit national condamné à se rejouer, porté par la mémoire d'anciennes blessures. Pour lui, Richard n'est pas seulement un joueur puni. Il devient, gonflé par le vent des circonstances, le symbole renouvelé d'une vieille humiliation canadienne-française qui trouve là une nouvelle manière de s'exprimer. Le hockey, encombré par l'image de ses commanditaires et de ses buveurs de bière industrielle, avait-il vraiment les moyens de se hausser soudain à la dimension d'un phénomène national, d'un acte symbolique? Sous la plume de Laurendeau, Maurice Richard apparaît, pourtant, comme une sorte de Saint-Sébastien transpercé de flèches, comme un homme injustement frappé qui rayonne par sa souffrance autant que par la beauté de sa vulnérabilité et de sa résistance, comme les grandes figures symboliques héritées du passé. Le hockey change de nature. Il cesse d'être un simple divertissement pour prendre une dimension ouvertement politique. Dans ce drame sportif revisité, Laurando croit discerner le retour d'ombres plus anciennes, la pendaison de Louis Riel, tout comme la crise de la conscription de 1942. Exécuté en 1885 au terme d'un procès inique, Riel incarnait pour le Canada français l'injustice poussée à son comble. Quant à la crise de la conscription, elle avait libéré de regrettables poussées antisémites, rappelle Laurando, mais elle ne surgissait pas pour autant de nulle part. Aujourd'hui, vers quelle cible se déchargerait de semblables emportements collectifs? Vers les musulmans plutôt que les juifs? Hélas, le triste besoin de bouc émissaire survit souvent au passage du temps. Lorsqu'un joueur aussi emblématique des Canadiens que Maurice Richard subissait une sanction sans commune mesure avec ses tragédies du passé, l'émotion suffisait à raviver un vieux réflexe collectif, celui d'être, encore une fois, traité sans égard, afin d'être maintenu à l'écart. Entre deux messages publicitaires, le hockey servait alors à son insu de caisse de résonance à un nouveau nationalisme encore hésitant et mal dessiné qui cherchait sa voie par des routes anciennes. Dans l'immédiat après-guerre, l'avalanche de publicités qui firent du hockey un monde enchanté ne cessait d'exalter la supériorité de ce joueur vedette qu'était Rocket Richard. Après Joe Monferrand, Louis Cyr, Victor Delamarre et toute une lignée d'hommes forts servant de compensation symbolique pour gommer l'image d'une faiblesse collective, le hockey permettait de goûter à de nouvelles victoires par procuration. Mais ces triomphes restaient confinés à la patinoire. Les Canadiens français ne contrôlaient ni Bay Street ni Ottawa, même si Maurice Richard régnait sans partage sur la glace. On a parfois des surprises quant aux lieux et aux formes que choisit l'histoire pour se révéler aux consciences. Un peuple minoritaire peut mettre des leviers économiques et politiques de son destin. S'est-il pris à rêver de triompher par l'entremise du hockey? Au début du XXe siècle, à l'heure de leur fondation, les Canadiens de Montréal portaient bien plus qu'un simple chandail bleu-blanc-rouge. Leur couleur renvoyait au tricolore républicain français, c'est-à-dire à une certaine idée de la liberté, d'égalité, de dignité du français et d'un sentiment de continuité historique. Dans les grands rassemblements, ce n'est pas pour rien qu'on chantait volontiers la Marseillaise. C'était moins en hommage à la France qu'en signe d'affirmation d'une identité malmenée cherchant à se dire autrement. Le Forum de Montréal devint ainsi le théâtre d'une collectivité qui se regardait exister par procuration sur une surface glacée. Après la guerre, la télévision en amplifia encore plus la portée, jusqu'à conférer à cette image collective une ampleur parfois démesurée. À force de grandir, elle finit même par se détacher de ses propres fondements. Les Canadiens on finit par apparaître surdimensionné, tout en demeurant un objet d'attachement réel, parfois bouleversant. Ils sont devenus, comme tant d'autres enseignes sportives, une franchise mondialisée, assez indifférente aux motifs du passé dont elle continue pourtant de tirer profit. Les joueurs viennent de partout, ce qui n'a rien de condamnable. Les individus comme le capital circulent librement, pourvu qu'ils produisent de la valeur marchande. Le marketing qui accompagne ce mouvement permanent des sportifs tend toutefois à uniformiser ce qui relevait autrefois d'une diversité plus incarnée. Tout ne disparaît pas pour autant. Il reste au fond une chose qui ne varie guère. Les séries de la Coupe Stanley demeurent un signe du printemps, au même titre peut-être que le retour des hirondelles, que les crocus qui percent le sol encore gelé, les terrasses qui se remplissent, les fenêtres qu'on entr'ouvre enfin. des vélos qu'on ressort. Les scieries participent à cette célébration diffuse de la saison chaude qui nous gagne lorsque la douceur revient faire son nid au milieu du froid. Et pareils élans, si déraisonnables soient-ils, ne manquent jamais de bonnes raisons pour continuer d'être célébrés. C'était « Pourquoi le hockey compte-t-il encore ?» un texte de Jean-François Nadeau, paru le 27 avril 2026 dans Le Devoir.
Le gouvernement Fréchette injecte 250 millions sur 5 ans dans la prévention en santé. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 11 mai 2026 dans Le Devoir. Pour alléger la pression sur le réseau de la santé, Québec injectera plus de 250 millions de dollars sur 5 ans dans la prévention. Le gouvernement misera notamment sur l'alimentation, la vaccination et la réduction de la consommation d'alcool. Il s'agit d'un investissement historique, a soutenu la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, lors d'un point de presse à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Le plan d'action dévoilé lundi le 11 mai 2026 vise à mettre en œuvre la stratégie de prévention en santé d'abord présentée l'été dernier. Celle-ci a pour objectif de réduire de 10 % les répercussions des maladies chroniques sur le système de santé d'ici 10 ans, ainsi que de diminuer de 10 % l'écart en matière de décès prématurés entre les Québécois les plus favorisés et les plus défavorisés. Québec a donc annoncé une cinquantaine de mesures pour sa stratégie de prévention. Parmi les actions ayant pour but d'alléger le fardeau des maladies évitables, le gouvernement compte, entre autres, améliorer l'accès à des aliments nutritifs pour les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. Il veut aussi s'attaquer au tabagisme. Il souhaite renforcer l'encadrement législatif et réglementaire afin de réduire l'accès aux produits du tabac et de vapotage, ainsi que leur attrait, notamment sur le plan économique. En matière d'alcool, Québec prévoit également resserrer les pratiques de marketing. Le plan a aussi pour but de faciliter l'accès à certains services préventifs et de dépistage de proximité, a précisé Mme Bélanger. Québec compte rendre disponible plus facilement la vaccination, le dépistage et les traitements pour les infections transmissibles sexuellement. Des cibles. Pour mesurer les progrès accomplis, l'État suivra différents indicateurs. L'une des cibles consiste à réduire, d'ici 2031, le taux de décès évitable à 132,5 pour 100 000 habitants. Celui-ci s'élevait à 147,2 pour 100 000 habitants en 2023. Quant à la proportion des élèves de troisième année du secondaire ayant une couverture vaccinale complète, le gouvernement souhaite qu'elle passe de 70,6 à 80 d'ici 2030-2031. D'ici l'été 2026, un tableau de bord présentant des indicateurs de santé de la population québécoise sera par ailleurs accessible en ligne au grand public, a dit Sonia Bélanger. Des données sur le tabagisme et les maladies chroniques, comme le diabète et l'asthme, y seront affichées. Tout le monde doit être interpellé par sa propre santé, mais aussi celle de ses proches et des Québécois plus globalement. On espère que ce tableau permettra une prise de conscience collective et individuelle, a souligné la ministre. Un accueil favorable malgré des réserves. Ce plan est une avancée importante pour concrétiser le virage préventif amorcé par le gouvernement, a affirmé la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie dans un communiqué. Le groupe rassemble 64 organismes dont l'Association pour la santé publique du Québec, ASPQ, Diabète Québec et la Société canadienne du cancer. La coalition estime toutefois que le plan comporte des angles morts, notamment l'absence de mesures pour imposer une taxe spécifique sur les boissons sucrées. Il est préoccupant que le gouvernement se prive de leviers aussi efficaces, a fait valoir Thomas Bastien, directeur général de la SPQ. Le groupe appelle par ailleurs Québec à déployer rapidement son nouveau tableau de bord. Cet outil demeure fortement attendu afin d'assurer un suivi transparent, rigoureux et accessible des maladies au Québec, souligne la coalition. C'était « Le gouvernement Fréchette injecte 250 millions sur 5 ans dans la prévention en santé ». Un texte de Florence Morin-Martel paru le 11 mai 2026 dans Le Devoir.
Le ruban gommé sur les bâtons. Une explication de Nicolas Richard paru le 24 avril 2026 dans la presse. André Gilbert, une lectrice, a demandé: quels sont les avantages, s'il y en a, à mettre du ruban gommé sur les palettes des bâtons de hockey? Réponse de Nicolas Richard. Il y a trois avantages à mettre du ruban gommé, ou du tape en bon français, sur la palette du bâton. D'abord, ça crée de l'adhérence entre le bâton et la rondelle. Comme le ruban est un peu collant et rugueux, ça permet aux joueurs de mieux contrôler la rondelle, surtout pour faire des feintes et décocher des tirs. La rondelle colle mieux sur la palette. Ensuite, ça permet d'amortir les passes avec plus de fluidité. Sans ruban, avec la force générée par certaines rondelles, le bâton pourrait vibrer, ce qui serait désagréable pour le joueur et difficile pour les mains à la réception d'une passe. Le ruban sert donc d'amortisseur. Finalement, le ruban est utile pour protéger le bâton tout simplement. Comme les bâtons sont de plus en plus chers, les nouveaux modèles de la marque Bauer se détaillent à $459,99. Le ruban permet d'éviter les égratignures ou les fissures dans la palette. On peut donc garder ses bâtons plus longtemps. C'était « Le ruban gommé sur les bâtons », une explication de Nicolas Richard, paru le 24 avril 2026 dans La Presse.